Sophie Fay, c'est l'histoire économique avec vous. Il y a de plus en plus de grandes fortunes aux États-Unis et cette explosion a une conséquence inattendue. On manque de mots pour les qualifier.
Eh oui, Bloomberg, une agence d'information économique et financière très sérieuse, qui édite le magazine Business Week, trouve le vocabulaire beaucoup trop pauvre pour qualifier les super riches. En particulier aux États-Unis. Peut-on mettre dans la même catégorie une personne qui possède un petit million d'euros, par exemple un agriculteur propriétaire de terrains constructibles à l'île de Ré, et quelqu'un qui a vendu sa société et a gagné plus de 100 millions d'euros? Ce sont deux millionnaires, mais pas tout à fait comparables. De même, on ne peut pas mettre Silvio Berlusconi, un petit milliard d'euros de patrimoine, dans le même sac, si j'ose dire, que Bernard Arnault, 84 milliards, ou Jeff Bezos et Bill Gates, qui frôlent 100 milliards chacun. Tous sont milliardaires, mais pas de la même manière.
Oh là là, vrai problème de riche, dites-moi. Alors comment les distinguer?
Ne vous moquez pas, Mathilde. Bloomberg a enfin trouvé la solution. Faute de mots, on va utiliser des chiffres. L'agence a créé une échelle de la richesse qui va de moins 2 à 11.
On démarre avec des chiffres négatifs.
Eh ben oui, lorsqu'on a peu de biens et des dettes, cela fait un patrimoine net négatif. L'exemple type pour Bloomberg, c'est le petit paysan ou l'étudiant qui sort de l'université avec une dette de 35 000 euros. C'est la moyenne aux États-Unis, 35 000 euros de dette. La vie devient agréable à l'échelon 6. 1 million d'euros de patrimoine net, en gros celui de Boris Johnson, le premier ministre britannique. On peut par exemple s'acheter une résidence en bord de mer, mais le Graal, évidemment, c'est l'échelon 11, 11, celui où, comme Bill Gates, vous avez assez d'argent pour éradiquer la polio dans le monde.
J'aime bien quand vous dites que ça devient agréable à partir d'un million. Voilà. À quoi ça sert en réalité cette échelle?
À mon avis, à rien. Mais cela montre à quel point les écarts de richesse sont devenus indécents et obsédants aux États-Unis. Ce sera un thème omniprésent de la campagne présidentielle. Et pour cause, au moment où Bloomberg classe les super riches, 48 000 salariés de General Motors, loin d'être millionnaires, entament leur 18e jour de grève. En 2008, pour sauver leur entreprise en faillite, ils avaient accepté des salaires plus bas. 10 ans plus tard, le constructeur automobile est redevenu très bénéficiaire, mais les salaires, eux, sont restés complètement bloqués.
C'était l'histoire économique. À la une de l'Obs, votre journal cette semaine, Sophie.
C'est Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations. Elle est représentée en icône féministe. Elle s'est hissée dans le classement des 30 personnalités préférées des Français. Est-ce qu'elle sert bien la cause des femmes? En tout cas, elle a une force secrète, ce conseil de son père. Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi.
Et puis il y a quelque chose d'autre?
Oui, je vous laisse découvrir la horde de cerfs qui entoure la maison de Luc Besson, le cinéaste du Grand Bleu, pour qui, vous verrez, rien ne va plus.
Bambi chez Luc Besson, c'est dans l'Obs cette semaine.